Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h39 et 30 secondes. France Inter enfile le blouson de cuir.
Vous êtes en direct, allez-y.
Eh ben ouais, parce que rien à faire, à l'écran, les flics français portent toujours le blouson de cuir. Engrenage, saison 6, est de retour ce soir sur Canal+, sans doute l'une des meilleures séries françaises. Écriture au cordeau, acteurs impeccables, d'autant plus attachants qu'ils incarnent des personnages denses, au parcours professionnel dévorant, obsessionnel. La flic, le juge, l'avocat, triptyque incarnant les piliers de la République que viennent ronger les doutes, les angoisses, les tentations de l'individu face à l'institution. Engrenage des hommes et des procédures.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Anne Landois.
Bonjour.
Alors vous avez rejoint Engrenage en cours de route à la saison 3, vous en êtes devenue la directrice artistique et puis la scénariste en chef ensuite à la saison 5. Vous êtes vraiment le maître d'œuvre, voilà le pilote à bord de cette série qui a été exportée dans 70 pays. Et je me suis demandé si plus c'était local, plus c'était universel, parce que franchement, sans notification de garde à vue, le juge d'instruction qui libère un suspect, parce que l'ordre des avocats qui autorise un pénaliste à conseiller deux suspects simultanément que les poulets voudraient séparer en interrogatoire, parce qu'il faut établir le lien de connectivité entre deux affaires pour retirer un dossier dans le 93 et le confier au DPJ. Franchement, ça intéresse qui en dehors de nos frontières?
Eh bien voilà, ça a été la grande surprise, c'est que ça intéresse tout le monde. Et en effet, local is global, hein, c'est ce qu'on commence à dire de plus en plus. Et il faut quand même savoir que la BBC diffuse Engrenage en version française sous-titrée. Ce qui est extrêmement rare pour une chaîne anglaise. Et oui, notre procédure qui est extrêmement particulière, qui est très très loin de tout ce qu'on peut voir en général, puisque c'est surtout la procédure anglo-saxonne que nous on
absolument
connaît.
Absolument. On est biberonné à ça.
On est biberonné à ça. Et même moi, quand au début j'étais scénariste, je faisais sans le savoir du droit anglo-saxon.
C'est ça. Voilà. Mais on sent chez vous hein, toujours cette gourmandise, pas seulement pour le jargon, parce que souvent quand on est devant une série américaine, une série médicale, etc. On sent cette gourmandise pour le jargon qui fait que le téléspectateur décroche légèrement ou s'imbibe d'un vocabulaire qui n'est pas le sien. Mais vous, ça va bien au-delà du jargon. C'est-à-dire, on sent que vous aimez pétrir cette matière, et une matière extrêmement technique en réalité.
Alors oui, et en effet, c'est extrêmement technique. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'était une source de dramaturgie inépuisable. Mm-hmm. Parce que tout ce que vous venez de citer, ça crée quoi ? Du conflit. Ouais. Voilà. Et le conflit, c'est la source de la dramaturgie. Donc en fait, le code pénal est pour moi c'est une matière, mais que je pétris en effet, qui est extrêmement dense et surtout qui change, puisque les lois changent, les comportements face à la loi changent, et on découvre aussi que il y a la loi et puis il y a une façon d'appliquer la loi.
C'est ça, et c'est tout évidemment l'enjeu d'Engrenage. Vous avez reçu un Emmy Award. Vous n'êtes pas nombreux en France à avoir reçu un Emmy Award. Grande récompense de la télévision américaine. Vous l'avez reçu dans une catégorie réservée à la production télévisuelle étrangère. Cette nuit a eu lieu justement la cérémonie, c'était à Los Angeles. C'est donc ce qu'on appelle les Oscars de la télévision américaine. C'était au Microsoft Theater de Los Angeles. Le Microsoft Theater, c'est quand même très très moche, hein, les théâtres qui sont sponsorisés. Palmarès foisonnant dont nous retiendrons deux choses aujourd'hui, les femmes et la politique.
On January 20th, Donald J. Trump will become the 45th president of the United States. And then, 2 months later, Mike Pence will become the 46th.
Après une année de satire dont on a parlé dans le monde entier, l'émission Saturday Night Live remporte 4 prix, dont celui pour l'acteur Alec Baldwin. Son imitation de Donald Trump tous les samedis soirs étant devenu l'un des grands rendez-vous du petit écran américain. On pouvait d'ailleurs le suivre hein, sur la saison dernière sur Canal+. Le présentateur de la cérémonie, Stephen Colbert, a par ailleurs rappelé que Trump avait été, je cite, la véritable star de la télévision l'an dernier. Et ce ne sont pas les audiences des chaînes info et des late shows, notamment ceux partis en croisade contre le président, qui diront le contraire.
Mommy!
La servante écarlate que vous pouvez voir en France sur OCS, c'était d'ailleurs l'événement hein, tout l'été. Meilleure série dramatique, meilleure actrice pour Elisabeth Moss qu'on adorait déjà dans Mad Men. L'adaptation du roman d'anticipation de Margaret Atwood, une Amérique aux mains d'une secte fondamentaliste réduisant les femmes fertiles à l'esclavage sexuel. À noter également que la série d'HBO, Big Little Lies, ça veut dire le gros petit secret ou le petit grand secret, comme vous voulez, sur les violences conjugales, a fait un tabac. Prix pour l'actrice Nicole Kidman qui a demandé sur scène, je cite, plus de rôles superbes pour les femmes. Enfin, sixième année de récompense d'affilée pour la comédie VIP à voir en France sur OCS également. Une femme politique incompétente et sans scrupules. Qu'est-ce qui vous donne envie de réagir, Anne Landois, à ce palmarès ? La politique ou les femmes ?
Alors oui, les femmes, Nicole Kidman qui demande plus de rôles pour les femmes, enfin des rôles aussi complexes que celui qu'elle interprète dans Big Little Lies. C'est vrai que c'est une série, moi, que j'ai absolument adorée, mais justement pour ce traitement très particulier des femmes. Et je trouve que de plus en plus,
C'est l'histoire du couple idéal, du couple parfait.
Ils sont tous beaux.
De l'extérieur, on ne voit rien, voilà. On ne sait rien. Et à l'intérieur, ça n'est que de la violence. Elle est battue par son mari.
Exactement. Et alors, il y a ça, il y a elle, mais il y a aussi toutes les autres femmes. Il y a cette façade très propre de l'Amérique riche, où toutes les femmes sont absolument parfaites, hein, ce qui est quand même beaucoup le contraire de la fiction chez nous et de la fiction anglo-saxonne. Et en effet, derrière, il y a tout ce qui est, tout ce que masque finalement une réalité sociale qui sert de vernis protecteur. Et finalement, ce qu'on découvre, c'est que toutes ces femmes ont les mêmes problèmes. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont battues, bien sûr, mais ont des problèmes finalement de relations avec les hommes, de complexité de relations avec leurs voisins, avec leurs enfants.
Et à la manœuvre, c'est une productrice qui est actrice également. Et c'est peut-être pas pour rien, d'ailleurs, qu'on a confié des rôles aussi denses aux femmes. Du côté de la politique, moi, j'étais quand même assez surprise de voir que d'un seul coup, dans ce palmarès qui est d'habitude largement dominé par la fiction, là, d'un seul coup, c'est l'émission satirique qui prend le relais, comme si la fiction avait été totalement dépassée par la réalité politique du personnage de Trump. Il a fallu l'imiter, lui, avec la perruque, la postiche sur scène, pour pouvoir marquer le coup. Et peut-être que les séries l'intégreront, mais en tout cas, là, elles ont été un petit peu rattrapées par la machine. Absolument redoutable ce générique. Anne Landois, maître d'œuvre d'Engrenage pour la saison 6. On l'a dans la tête, ça s'incruste cette petite machine.
Et moi, chaque fois que je l'entends, ça me donne des frissons. C'est pour vous dire.
Série chorale qui, à mon sens, se recentre de plus en plus autour de trois personnages clés, le juge, la flic et l'avocate. Ce triptyque, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est celui des institutions aux prises avec les failles humaines. Vos trois personnages, si on les prend tels quels, Anne Landois, incarnent une forme de, on dirait, de jusqu'au-boutisme dans leur métier, de jusqu'au-boutisme dévorant et obsessionnel.
Oui, alors bon, ils évoluent, hein, c'est-à-dire que d'une saison à l'autre, nous, notre grand défi, c'est toujours d'aller chercher un peu plus loin ce qu'on peut leur faire faire et surtout ce qu'ils portent en eux et leur fonction même. Et en effet, que ce soit Laure Berthaud, le juge ou Joséphine, là, vous avez vu, dans la saison 6, on les place dans des situations qui les forcent à réagir.
Alors, vous les placez dans des situations de dilemme, oui. Dans des situations morales complexes. En fait, ils sont tous les trois placés face aux mensonges.
Tout à fait. Ils sont placés face au mensonge ou au déni. Voilà.
Au mensonge, au déni. Ouais. Le déni supposant le mensonge. Voilà.
Enfin,
et
j'ai même envie de dire,
impliquant le déni.
Voilà, exactement. Et j'ai même envie de dire qu'ils sont placés certainement face au déni par rapport à eux. Par rapport à leur être profond et au mensonge par rapport à l'institution qu'ils sont censés incarner.
Alors, ce qui me frappe, moi, vraiment dans cette série, c'est que vous ne les condamnez pas, vous les comprenez, vos personnages, vous les aimez. C'est une série qui déploie une tendresse assez fine pour ces personnages. L'institution, elle les condamne. C'est aussi une série qui tricote une vision extrêmement saine des piliers de la République.
Complètement. C'était l'objectif et je suis contente que vous remarquiez qu'en fait j'ai beaucoup de tendresse pour eux parce que c'est vrai. En fait, je ne cherche pas à avoir de jugements moraux sur ce qu'ils font. Ils sont pris dans des dilemmes, dans des filets. Ils sont sûrs des valeurs qu'ils incarnent. Ça, c'est vrai. Mais il y a un moment, ils sont obligés de se salir les mains.
Ils sont obligés de se salir les mains, mais quand ils sont sûrs des valeurs qu'ils incarnent, c'est parce que derrière, ils ont toujours foi. Mais quelque part, vous avez foi aussi dans les piliers de notre République. C'est là où je dis qu'on est, très loin d'Olivier Marchal, on est très loin de Bracco, on est très loin des films de Luc Besson. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une série de gauche?
Alors non. C'est quand même assez drôle parce que quand même on nous a taxé très longtemps d'être une série de droite.
C'est vrai.
Je trouve ça marrant parce que on nous disait qu'on faisait trop la part belle à la police.
Alors on peut faire la part belle à la police, mais je pense que si on a dit pendant très longtemps que les films de Clint Eastwood étaient des films très réac et très de droite, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a absolument pas foi dans les collectifs, dans le collectif, dans la société, dans les institutions, et que ces héros sont obligés de se faire justice eux-mêmes. Non,
pas du tout.
Jamais.
Eux, ils croient toujours dans les valeurs qu'ils incarnent. Et j'ai envie de dire qu'en fait, c'est l'institution qui ne le protège pas ou plus. Voilà. Et c'est ces failles des institutions qui, moi, m'intéressaient, avec des héros qui sont en effet des piliers et qui essayent toujours de poursuivre les valeurs en fait, qu'ils essaient de transmettre. Et il y a cette espèce de dichotomie, en fait, et c'est ça qui est intéressant en fiction, hein, entre ce qu'ils croient au fond d'eux-mêmes et la difficulté d'appliquer en fait, leur travail.
Alors, il y a les institutions et puis il y a la politique.
Vous vous êtes pas beaucoup battu.
Vous avez bien vu que mon adjointe m'a lâché.
Et alors?
Je peux me débrouiller pour vendre le terrain maintenant, il sera moins cher. Mais pour le PLU, je peux rien faire.
Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un terrain inconstructible?
Dans 3 ans, après ma réélection, je reviendrai à la charge pour faire modifier le PLU.
Quelle réélection? Sans moi, il n'y a pas de réélection.
Voilà. Dialogue entre un voyou, plus qu'un parou, pas un voyou, pardon, un parrain local, on va dire, et la mère de Cléry-sous-Bois. Allez chercher Cléry-sous-Bois sur une carte, bonne
chance.
Vous
la trouverez
pas. Ceci dit, la carte, on va faire un petit détour à l'endroit. La carte, vous l'avez trouvée, vous l'avez soigneusement étudiée. Un polar, c'est une topographie. Et ça, c'est très frappant dans Engrenage, parce que vos flics sont sur le terrain absolument non-stop. Et donc, tous vos épisodes sont émaillés par des noms de rues, par des noms de carrefours, par des situations géographiques. C'est vraiment l'ancrage géographique, l'ancrage urbain qui donne le ton à vos polars. À un polar en général d'ailleurs.
Alors en fait, c'est ça. La caractéristique d'Engrenage, c'est à la fois cet ancrage qui donne énormément de réalisme à la série. Et c'est la complexité des personnages et c'est en fait tout ce qu'on raconte finalement sur la société d'aujourd'hui. Cléry-sous-Bois, évidemment, ça n'existe pas pour une raison très simple, c'est qu'on parle d'une ville du 93. C'est un mélange en fait de différentes problématiques que rencontrent les villes du 93.
Donc là, vous plongez dans les liens qui unissent la mairie et on va dire la petite mafia locale, ou en tout cas la délinquance locale et ceux qui la tiennent.
Le grand banditisme.
Le grand banditisme, mais ça veut dire c'est un lien électoral, c'est un pacte électoral. Là, vous êtes beaucoup plus sévère que vis-à-vis de la police et de la justice. Je me trompe?
Oui, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des flics corrompus qui ont un rôle à jouer aussi dans ce triangle finalement qui va ébranler les institutions. En fait, finalement, c'est un peu le revers de la médaille où les institutions qui sont incarnées par nos personnages, on les voit s'effriter et de l'autre côté du périph, on voit le résultat qui a débordé en fait totalement, où ceux qui incarnent véritablement les institutions se sont vraiment effrités d'eux-mêmes et n'ont plus la solidité pour les représenter. Donc je parle de cette mère, personnage qui nous a quand même été, qui a été nourrie.
M-A-I-R-E.
Mère, M-A-I-R-E, bien sûr. Même si on a une mère, M-E-R-E. Mais c'est un personnage qui nous a largement été inspiré d'une mère du 93 qui nous a fait part de son expérience. Tout ça étant traité de cette partie un peu sombre des relations dont on parle très peu, je trouve, entre les mairies et les voyous. Et je trouve que la mère l'explique assez bien quand elle explique pourquoi elle en est là aujourd'hui et que c'est pas si simple en fait. C'est pas si simple de se maintenir au pouvoir pendant des années et de garder des mairies. Mais il y a un moment en fait, on passe des pactes malheureux et il y a un moment c'est trop tard, quoi.
Alors, une mère, des femmes.
Voilà.
Les femmes, elles ont donc un rôle absolument central dans Engrenage. Joséphine Carlson, qui est donc ce personnage de l'avocate pénaliste aux dents longues, avec dont les failles la rendent évidemment très attachante.
Tu sais ce qu'il me disait, mon père ? Il disait que... Et si je répétais qu'il frappait ma mère, j'allais finir à l'asile avec les fous. Ils ont gagné, là.
Qui ça ?
Les connards. Les mecs. Mon père, Zabo, Edelman. Tous ces connards. Ils ont gagné, je suis plus bonne à rien.
La flic et l'avocate, deux femmes en miroir, deux femmes dans un monde de mecs. Vous caricaturez peut-être un peu le droit pénal, non ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui portent la robe quand même, de plus en plus, non ?
Oui, bien sûr, oui. Évidemment. Alors, caricaturer le droit pénal, non, je pense que c'est pas du tout l'objectif.
Vous le masculinisez un petit peu.
Oui, c'est surtout qu'en plus... Bon, Engrenage, c'est particulier. Le barreau, c'est vrai, est largement représenté par Joséphine. Mm. Mais au-delà de ce qu'on a envie de raconter sur le barreau, on parle d'abord d'un parcours de femme. Et ce qui m'intéressait particulièrement dans cette saison, qui avait déjà été amorcée avec la saison 5, c'est le rapprochement entre les sœurs ennemies. Finalement, Laure et Joséphine, elles ont beaucoup plus en commun qu'on ne l'imagine, mais elles sont chacune à des places de la démocratie qui les opposent totalement.
Alors, il y a cette réflexion très intéressante là dans la saison 6 sur la féminité. Une féminité malgré elle pour Joséphine Carlson, qui est toute poitrine et stiletto dehors, une femme absolument magnifique et qui sait se servir de ses charmes, mais qui en même temps en bave du regard des hommes sur elle. Et Laure Berthaud, ce capitaine de police, qui elle, pour le coup, est dans le refus, dans le déni de sa féminité et qui est confrontée à la maternité. Là, il y a une image qu'on ne voit jamais à la télévision. Là, on voit d'un seul coup, un téton à l'écran, un téton et une montée de lait. Oui. Jamais vu.
Non.
En prime time.
Pourtant, c'est d'une banalité quand même. Vous ne pouvez pas me l'ôter, ça. Et voilà. En tout cas, c'est vrai que moi, je trouve que les séries permettent de plus en plus de montrer ce qui a été toujours caché. Il y a un rapport à l'intimité, à la fois dans l'écriture et dans ce qu'on découvre aussi dans les séries, et particulièrement dans le traitement des femmes. En tout cas, moi, ça a été le travail que j'ai vraiment voulu faire depuis la saison 5. C'est montrer ce revers, en fait, des héroïnes. On est assez habitué en France à avoir des héroïnes tout l'un ou tout l'autre, ayant toujours du mal à allier travail, vie privée, etc. Mais au-delà de ça, ça veut dire quoi ? Voilà. Laure Berthaud, bah oui, elle a accouché d'un enfant prématuré dont elle ne voulait pas. Quand on vient d'accoucher d'un enfant, bah, y a des choses qui se passent quoi, dans le corps. Et évidemment, c'est pas de montrer une montée de lait qui m'intéresse, vous en doutez bien. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est le regard de Gilou.
Je me suis demandé même, moi, voilà, si c'était pas la saison de la maturité pour tous les personnages, hommes et femmes. Parce qu'en réalité, la question de la parentalité, elle est là pour tous. C'est-à-dire, ils sont tous renvoyés à leur enfance, ils sont tous renvoyés à leur vieillesse, ils sont tous renvoyés à ce qu'ils ont pu partager, à ce qu'ils ont pu protéger, pas protéger, leur capacité à devenir père, mère, tous. Et il y a comme une forme de miroir devant lequel est placé chacun de vos personnages dans cette saison 6, Anne Landois.
Alors, c'est exactement ça, d'autant plus que je me suis toujours figurée en Grenage comme un groupe d'individus. Je vois en fait ces personnages comme une famille recomposée. Mmh. Je me suis toujours mis ça en tête. Donc, ils ont des liens qui, au-delà même de leurs liens professionnels, les tissent entre eux, mais de ce qu'ils ont de plus intime. Et ils en parlent, en fait. Ils commencent à parler. Il y a quand même Gilou qui parle de son enfance. Je le trouve absolument bouleversant.
Une séquence absolument bouleversante.
Il est absolument... Mmh. Mais moi, ça me déchire, en fait, quand j'entends ça. Et c'était le moment de le faire. Gilou qui fait cette déclaration, c'est dans l'épisode 8 ou 9, je me rappelle.
J'allais vous le diffuser,
c'est assez loin.
Mais l'émission est terminée. Ah,
dommage.
Donc il va falloir regarder
la série.
Exactement, Engrenage saison 6 sur Canal+, ça commence ce soir. Les 5 premières saisons sont disponibles en DVD. La prochaine fois, vous me direz quel compte vous avez à régler avec les médecins. On n'a jamais vu un personnage de médecin aussi odieux à la télévision. Merci beaucoup, Anne Landois.
Merci à vous.